Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1947. Pour une morale de ambiguïté est un essai philosophique dans lequel Simone de Beauvoir répond au défi central de l'existentialisme, comment fonder une conduite morale si aucune loi, divine, nature humaine fixe ou valeur absolue, ne décide par avance du bien. Proche des analyses de Jean-Paul Sartre, mais doté d'une orientation propre, le livre refuse autant le relativisme sans limite que les morales fondées sur des règles immuables. Beauvoir part de la condition humaine, simultanément incarnée dans un monde de faits et capable de le dépasser par ses projets. Cette tension constitue une ambiguïté irréductible, non une faute intellectuelle qui demanderait une solution définitive. Une morale valable doit donc aider chacun à agir sans effacer les risques, conflits et conséquences de l'action. Le propos lie liberté personnelle, responsabilité envers autrui et engagement historique. Il examine aussi les manières de fuir la liberté, puis les exigences politiques qui découlent de la lutte contre l'oppression. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, assumer une condition humaine faite de finitude et de dépassement. Le point de départ de Beauvoir est que être humain ne coïncide jamais totalement avec lui-même. Il est un corps situé, vulnérable, mortel et inscrit dans des circonstances qu'il ne choisit pas entièrement. Mais il est aussi une conscience capable de viser un avenir, de donner une direction au présent et de transformer son rapport au monde. Cette double dimension interdit de réduire une personne soit à une chose déterminée par ses conditions, soit à une liberté sans attache. Ambiguïté désigne précisément cette coexistence de la facticité et du dépassement. Beauvoir critique les doctrines qui prétendent supprimer ce conflit au nom d'une vérité éternelle, d'un destin social ou d'une pureté morale. Ces réponses rassurent parce qu'elles offrent des certitudes, mais elles risquent de masquer la responsabilité concrète de celui qui agit. Assumer ambiguïté ne signifie donc ni célébrer incohérence ni renoncer au jugement. Cela signifie reconnaître que les choix ont lieu dans des situations imparfaites, avec un savoir limité et des effets qui ne sont jamais entièrement maîtrisables. La morale ne fournit pas une recette qui dispense de décider. Elle demande de prendre en charge la tension entre les fins voulues et les moyens disponibles, entre intérêts propres et monde commun, entre présent subi et avenir ouvert. Deuxièmement, faire de la liberté un principe de responsabilité plutôt que de arbitraire pour Beauvoir, absence de fondement transcendant ne rend pas toute décision équivalente. La liberté ne consiste pas à satisfaire un caprice ni à se croire indépendant de toute conséquence. Elle est le mouvement par lequel une personne se projette vers des fins et confère une signification à son existence par des actes. Puisque aucune autorité extérieure ne garantit le sens de ces fins, le sujet ne peut se décharger de leur choix sur une tradition, un ordre ou une prétendue nécessité. Cette responsabilité est lourde, mais elle fonde aussi la possibilité d'une morale existentielle. Beauvoir soutient que vouloir sa propre liberté conduit à vouloir la liberté des autres. La raison en est concrète, les projets humains prennent place dans un monde partagé, fait de langage, de travail, de relations et de possibilités ouvertes par autrui. Traiter les autres comme de simples instruments ou leur fermer tout avenir détruit les conditions mêmes d'une liberté authentique. Le critère moral ne devient pas une liste de commandements universels. Il consiste à examiner si une action favorise ou entrave la capacité des personnes à poursuivre des projets librement. Cette orientation laisse place au conflit de situation, mais elle refuse clairement domination, exploitation et indifférence envers la liberté étrangère. Troisièmement, identifier les attitudes qui transforment la liberté en fuite ou en pouvoir vide. Une partie décisive de l'essai analyse plusieurs attitudes par lesquelles les individus évitent ou déforment leur liberté. La figure de l'enfant représente une existence encore portée par un monde de valeurs reçues comme évident. Le problème commence lorsque l'adulte cherche à conserver cette sécurité en prenant les valeurs établies pour des vérités absolues. Beauvoir appelle sérieux cette soumission à des fins figées, telles que richesse, nation, prestige ou institution, lorsque elles sont traitées comme plus importantes que les libertés humaines qui leur donnent sens. Le sous-homme se détourne de tout projet vivant, tandis que nihiliste détruit les valeurs sans parvenir à engager positivement sa liberté. Aventurier accepte le risque de agir, mais peut réduire les autres à des obstacles ou à des moyens de réussite. La passion peut également enfermer une existence si elle transforme une fin particulière en absolue. Ces analyses ne sont pas une simple typologie psychologique. Elles montrent comment une liberté abstraitement reconnue peut devenir passivité, conformisme, destruction ou conquête égoïste. Beauvoir cherche ainsi à distinguer engagement véritable et fuite devant la responsabilité. Une conduite libre exige de ne pas idolâtrer ses objectifs et de maintenir ouverte la question de leurs effets sur autrui. Elle suppose une lucidité sur les motifs personnels comme sur les structures sociales qui favorisent ses démissions. Quatrièmement, comprendre pourquoi l'oppression limite matériellement la possibilité de choisir, la morale de Beauvoir ne confond pas liberté existentielle et égalité déjà réalisée des conditions. Toute personne se rapporte à son existence par des choix, mais les possibilités effectives de projet sont profondément inégales. La pauvreté, la servitude. La violence politique ou exclusion peuvent enfermer des individus dans une situation où avenir se réduit à la survie et où les moyens de action leur sont retirés. Il serait alors hypocrite de leur adresser seulement une injonction abstraite à être libre. Cette attention aux conditions concrètes distingue le livre de lecture individualiste de existentialisme. La liberté doit être défendue dans les institutions, les rapports sociaux et les luttes collectives, parce que autonomie formelle ne suffit pas lorsque les pouvoirs matériels appartiennent à quelques-uns. Beauvoir ne présente pourtant pas les opprimés comme de simples objets sans initiative. Elle décrit plutôt une relation où oppression cherche à fixer autrui dans le statut de chose, alors que celui-ci demeure une conscience capable de résistance et de dépassement. La tâche morale incombe donc aussi à ceux qui bénéficient d'un ordre injuste. Ils ne peuvent justifier leur confort par la prétendue nature des hiérarchies. Le refus de oppression devient une conséquence de la reconnaissance de autrui comme liberté, non un supplément charitable ajouté après coup à une éthique personnelle. En dernier lieu, agir dans histoire sans confondre engagement et pureté morale, le livre a été écrit dans le contexte de après-guerre, lorsque les questions de violence, de responsabilité et de choix politiques ne pouvaient être traitées comme de simples exercices théoriques. Beauvoir refuse deux positions symétriques. Une morale de pureté qui condamnerait toute action compromise avec le réel peut conduire à laisser durer injustice et violence. Mais un réalisme cynique, qui excuse tous les moyens au nom de efficacité ou de histoire, détruit le principe même de liberté qu'il prétend parfois servir. Agir exige donc de mesurer les conséquences, de reconnaître les conflits entre valeurs et de ne jamais transformer une cause en absolu dispensant de juger ses moyens. Le résultat ne peut pas être garanti avant action, car histoire reste ouverte et les autres conservent leur initiative. Cette incertitude ne justifie pas inertie. Elle impose une vigilance continue, réviser ses choix, répondre de leurs effets prévisibles et maintenir comme fin la possibilité de liberté future. Beauvoir formule ainsi une éthique de engagement qui ne promet ni innocence ni sécurité. Sa force est de tenir ensemble nécessité de intervenir dans le monde et refus de sacrifier des personnes à une idée prétendument supérieure. La politique devient un domaine moral parce qu'elle organise concrètement les possibilités de vie et de projet de chacun. En conclusion, pour une morale de ambiguïté convient aux lecteurs de philosophie morale, de existentialisme et de pensée politique qui souhaitent comprendre comment Beauvoir articule liberté individuelle et responsabilité collective. Il est particulièrement utile après une première approche de Sartre, mais il peut aussi servir de porte-entrée vers une version plus concrète de existentialisme. Le texte demande une lecture attentive son vocabulaire philosophique. Ses distinctions entre attitude et ses discussions de action historique ne visent pas la vulgarisation rapide. En retour, il donne des outils solides pour examiner les discours qui invoquent le destin, la tradition, efficacité ou pureté afin de soustraire les individus au jugement moral. Son bénéfice intellectuel majeur est de montrer que l'absence de valeurs garanties ne conduit pas nécessairement au nihilisme. Elle rend au contraire les choix plus exigeants, car ils doivent être justifiés dans leurs effets sur des libertés réelles. Par rapport à de nombreux essais existentiels centrés sur angoisse ou authenticité personnelle, celui de Beauvoir se distingue par la place structurante accordée à autrui, aux conditions de oppression et aux dilemmes politiques. Il ne propose pas un code stable ni une consolation métaphysique. Il élabore une méthode de lucidité pour agir dans un monde où toute décision demeure située, risquée et révisable. Cette alliance de rigueur conceptuelle, attention au réel et refus de toute domination, explique sa place durable dans la philosophie morale du XXe siècle. Si vous souhaitez soutenir Simone de Beauvoir, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.